Le récit du soldat. Les amants de la guerre. C'est durant la bataille d'Azincourt que Fedman Kassad rencontra la femme qu'il allait passer le reste de sa vie à essayer de retrouver. Par une matinée froide et humide de la fin du mois d'octobre 1415, on l'avait introduit comme archer dans l'armée du roi Henri V d'Angleterre. Les forces anglaises se trouvaient sur le sol français depuis août 1414 et battaient peu à peu en retraite depuis le 8 octobre devant des troupes françaises supérieures en nombre. Henri avait convaincu son conseil de guerre que l'armée anglaise était capable de rejoindre Calais, où elle serait en sécurité, à marche forcée, avant les Français. Cette stratégie avait échoué. À l'aube de ce 25e jour gris et brumeux d'octobre, 7000 Anglais, pour la plupart des archers, se massèrent face à une force de quelque 28 000 hommes d'armes français sur une largeur d'un kilomètre de terrain bourbeux. Kassad avait froid, il se sentait fatigué et malade, et il avait très peur. Avec les autres archers, ils se nourrissaient presque exclusivement de baies sauvages depuis 8 jours que durait leur marche, et la majorité des hommes en ligne comme lui ce matin-là souffraient de diarrhée. La température ne dépassait pas 12 degrés. Kassad avait vainement essayé la nuit précédente de trouver le sommeil à même la terre humide. Il était extrêmement impressionné par l'incroyable réalisme de l'expérience. Le réseau tactique historique de l'école de commandement militaire d'Olympus était aussi différent par rapport au steam-sim traditionnel que les polyholos comparés aux phérotypes d'antan. Mais les sensations physiques étaient si convaincantes, si réelles, que Kassad appréhendait pour de bon d'être blessé au combat. On racontait que des élèves officiers, ayant reçu une blessure fatale dans une cime du RTH-ECMO, avaient été retirés morts de leur crèche d'immersion. Kassad et le reste de l'archerie du flanc droit de l'armée d'Henri observaient sans rien faire les forces françaises depuis le début de la matinée, lorsque des penons s'agitèrent. L'équivalent d'un sergent du XVe siècle aboya ses ordres, et les archers, obéissant au commandement royal, marchèrent sur l'ennemi. Le front irrégulier des Anglais, qui s'étalait sur 700 mètres d'une ligne d'arbre à l'autre, consistait en un groupe d'archers comme ceux de la troupe de Kassad, mêlés à des groupes plus petits d'hommes d'armes. Les Anglais ne disposaient pas de cavalerie organisée. La plupart des chevaux que Kassad pouvait voir de son côté avaient pour cavaliers des hommes rattachés au groupe de commandement du roi à 300 mètres du centre, ou aux positions du duc d'York, beaucoup plus proche de l'endroit où se tenaient Kassad et les autres archers, sur le flanc droit. Ces groupes de commandement rappelaient à Kassad le QG mobile de l'état-major d'une unité terrestre de la force, à l'exception de l'inévitable forêt d'antennes de communication, ici remplacée par des pennons et gonfalons qui pendaient au bout de leurs piques. Cible rêvée pour l'artillerie, se dit Kassad, pour se rappeler aussitôt que de telles notions militaires n'existaient pas encore. Kassad avait constaté que les Français ne manquaient pas de chevaux. Il estima que chaque flanc de leur armée devait comporter 600 ou 700 hommes montés, en plus d'une longue ligne de cavalerie derrière le front principal de leurs troupes. Il n'aimait pas beaucoup ces bêtes. Il en avait déjà eu sous les yeux des images et des représentations holo, naturellement, mais il n'en avait jamais contemplé en chair et en os avant cet exercice. Leur taille, leur odeur, les bruits que les chevaux faisaient entendre le rendaient nerveux, surtout dans la mesure où ces fichus quadrupèdes étaient revêtus d'une armure de la tête aux sabots, bardés de fer et entraînés à porter des hommes en armure maniant des lances de 4 mètres de long. L'avance des Anglais prit fin. Kassad estimait que sa ligne de bataille se trouvait à 250 mètres environ de la ligne française. Il savait, d'après l'expérience de la semaine passée, que les Français se trouvaient à portée de ses flèches, mais il aurait fallu, pour bander l'arc, se déboîter à moitié l'épaule. Les Français criaient ce qu'ils supposaient être des injures. Il les ignora tout en s'avançant, avec ses compagnons silencieux, à quelques mètres de l'endroit où ils avaient fiché en terre leurs longues flèches pour les avoir à portée de la main, et trouvèrent un terrain meuble pour y enfoncer leurs pieux. Ceux-ci étaient lourds et longs, environ 1,50 m, et cela faisait une semaine que Kassad traînait le sien. Il les avait rendus pointus aux deux extrémités. Lorsque l'ordre avait été transmis à toute l'archerie de couper de jeunes arbres pour en faire des pieux, quelque part au cœur de la forêt, après la traversée de la Somme, Cassade s'était vaguement demandé à quoi cela pourrait bien servir. Il détenait maintenant la réponse. Un archer sur trois avait dans son équipement un lourd marteau d'armes, et les pieux furent enfoncés avec, selon un angle soigneusement étudié. Cassade sortit son grand couteau pour tailler de nouveau la pointe du pieu qui, malgré son inclinaison, lui arrivait presque à hauteur de poitrine. Puis il recula, à travers le hérisson de pieux acéré, pour attendre la charge des Français à côté de ses flèches. Les Français ne chargèrent pas. Cassade attendit. Son grand arc était bandé. 48 flèches étaient plantées en deux faisceaux à ses pieds, dont la position était parfaitement réglementaire. Les Français ne chargeaient toujours pas. La pluie avait cessé, mais une brise fraîche s'était levée et la faible quantité de chaleur corporelle produite par Cassade au cours de la brève marche et de la corvée des pieux s'était rapidement dissipée. Les seuls bruits que l'on entendait maintenant étaient les frottements métalliques des armures des hommes et des bêtes, quelques rires et murmures nerveux occasionnels, ainsi que les piétinements sourds des sabots de la cavalerie ennemie qui se redisposait mais refusait toujours de donner l'assaut. « Bordel !» s'exclama un yeoman aux cheveux grisonnants à quelques mètres de Cassade. « Ces putains de salauds nous ont fait perdre toute notre foutue matinée! Qu'ils lèvent le cul du pot s'ils ne peuvent pas chier !» Cassade hocha la tête d'un air approbateur. Il ignorait si l'autre s'était exprimé réellement en moyen anglais ou en simple standard. Il n'aurait su dire si l'archer grisonnant était comme lui un élève officier de l'école militaire, ou bien un instructeur, ou encore un artefact créé par la cime. Il n'aurait pas su dire non plus si l'argot était authentique. Il s'en fichait, en fait. Son cœur battait très fort et ses doigts étaient moites. Il s'essuya les mains sur son pourpoint. Comme si le roi Henri n'avait attendu que le signal du vieil archer, des bannières de commandement s'agitèrent soudain. Des sergents hurlèrent leurs ordres et des rangées d'archers anglais levèrent leurs grands arcs, les bandèrent à un commandement et lâchèrent la corde au commandement suivant. Quatre volées représentant plus de 6000 flèches longues d'un yard, à la tête triangulaire, semblèrent former un nuage à 30 mètres de haut, puis retombèrent sur les Français. Les hennissements aigus des chevaux s'élevèrent, accompagnés du crépitement de 10 000 pots d'étain battus par des milliers d'enfants déments, tandis que les hommes d'armes français se penchaient pour recevoir le gros de l'averse sur l'acier de leur bassinet ou de leur plaque de buste et d'épaule. Cassade n'ignorait pas que, militairement, peu de dommages réels étaient ainsi causés, mais c'était piètre consolation pour le soldat français qui se retrouvait avec 10 pouces de bois de flèche dans l'œil, ou pour les dizaines de chevaux qui trébuchaient, vacillaient ou s'écroulaient les uns sur les autres, tandis que leurs cavaliers luttaient pour arracher les dards des flancs des malheureuses créatures. Les Français, cependant, ne chargeaient toujours pas. De nouveaux ordres furent lancés. Cassade mit l'arc en position, banda, lâcha son trait. Puis encore et encore. Toutes les 10 secondes, le ciel se noircissait. Son bras et son épaule étaient endoloris. Il ne ressentait ni exaltation ni colère. Il faisait simplement son travail. Les muscles de son avant-bras étaient en feu. De nouveau, les flèches volèrent. Puis encore. 5 de ses premiers faisceaux de 24 flèches y étaient déjà passés lorsqu'un grand cri se propagea le long des lignes anglaises. Retenant sa respiration, l'arc bandé, il baissa les yeux pour regarder devant lui. Les Français étaient en train de charger. Une charge de cavalerie était quelque chose qui dépassait l'expérience de Cassade. La vue de 1200 chevaux en armure fonçant droit sur lui créait des sensations internes qu'il trouvait pour le moins déroutantes. La charge ne dura pas plus de 40 secondes, mais il découvrit que c'était largement suffisant pour que sa bouche devienne absolument sèche, que sa respiration commence à lui poser quelques problèmes et que ses testicules se rétractent entièrement. Si le reste de son corps avait pu trouver un endroit comparable où se recroqueviller tout entier, il aurait sérieusement envisagé de s'y réfugier aussi. En l'occurrence, il était trop occupé pour penser seulement à prendre la fuite. Au commandement, sa ligne d'archers lâcha 5 volées successives sur les cavaliers lancés à l'attaque, réussit à placer une volée supplémentaire en libre tir et recula de 5 pas. Les chevaux, en fin de compte, se montrèrent trop malins pour s'empaler délibérément sur les pieux, quelle que fût l'ardeur avec laquelle leurs cavaliers les poussaient à le faire. Mais la deuxième et la troisième vague de cavalerie ne purent s'arrêter aussi brusquement que la première, et il suffit d'un seul instant d'aimant pour que monture et cavaliers s'écroulent pêle-mêle dans un concert de cris et de hennissements aigus. Cassade s'élança en hurlant, s'attaquant à tous les Français désarçonnés qu'il voyait, abattant son marteau d'armes sur tous ceux qui étaient à terre sur son passage, plantant son long couteau au défaut de toutes les armures quand il n'avait pas la place de faire des moulinets avec le marteau. Bientôt, avec l'archer grisonnant et un soldat un peu plus jeune qui avait perdu son bassinet, il forma une équipe redoutable qui s'attaquait systématiquement à tous les cavaliers démontés, sur trois côtés à la fois. Cassade se servait de son marteau d'armes pour faire rouler à terre le cavalier qui l'implorait à genoux, puis tous les trois lui sautaient dessus avec leurs lames nues. Un seul cavalier français réussit à se remettre debout et à leur opposer son épée. Soulevant sa visière, il formula la demande honorable d'un combat singulier. Mais tandis que le vieil homme et le jeune tournaient autour de lui comme des loups, Cassade alla prendre son arc et lui planta, à 10 pas, une flèche dans l'œil gauche. La bataille se poursuivit dans la veine mortelle d'un opéra comique propre à tous les combats depuis les premiers affrontements à coups de cailloux et de fémurs sur l'ancienne terre. La cavalerie française réussit à faire volte-face et à battre en retraite, juste au moment où la première vague de 10 000 hommes d'armes chargeait à pied le centre des forces anglaises. La mêlée qui s'ensuivit rompit le rythme de l'attaque, et, avant que les Français n'eussent le temps de reprendre l'initiative, les hommes d'armes d'Henri les tenaient au bout de leurs piques, et des milliers d'archers, dont Cassade, lâchaient des volées de traits meurtriers à courte distance sur l'infanterie française massée en rang serré. Cela ne mit pas un terme à la bataille. Ce ne fut pas non plus nécessairement le moment décisif. L'instant crucial, quand il arriva, fut perdu, comme cela arrive régulièrement de telles circonstances, dans le tourbillon de poussière de 1000 rencontres individuelles, fantassin contre fantassin, uniquement séparés par la distance des armes individuelles. Avant la fin de la bataille, quelques 3 heures plus tard, des variations mineures de thèmes répétés allaient prendre place, des poussées inefficaces, contrées par des contre-poussées maladroites, se succéderaient. Et il y aurait un moment moins qu'honorable où Henri ordonnerait que l'on mît à mort les prisonniers français plutôt que de les abandonner sur les arrières lorsque les Anglais durent faire face à une nouvelle menace. Mais héros et historiens, plus tard, s'accorderaient pour dire que l'issue s'était jouée quelque part au milieu de la confusion qui avait marqué la première charge de l'infanterie française. Les soldats français avaient péri par milliers et la domination anglaise sur cette partie du continent continuerait de s'exercer encore un bon moment. L'ère des hommes d'armes en armure, des chevaliers et de tout ce que la chevalerie représentait était terminée, clouée dans le cercueil de l'histoire par une armée disparate de quelques milliers de paysans munis de grands arcs. L'ultime insulte faite aux nobles français qui avaient trouvé la mort, si tant est que les morts puissent être insultés plus avant, résidait dans le fait que les archers anglais n'étaient pas seulement des hommes du commun, commun au sens le plus vil du terme, le plus infesté de poux et de puces, mais étaient également de simples conscrits, des appelés, des grognards, des troufions, des GIs, des bérets rouges, des techniciens de la mort, des spets. Tout cela, bien sûr, faisait partie de la leçon que Cassade était censé apprendre à l'occasion de cet exercice du RTHECMO. Mais il n'avait rien retenu du tout. Il était trop absorbé par un autre type de rencontre qui allait bouleverser sa vie. L'homme d'armes français passa par-dessus la tête de son cheval stoppé net, roula une fois sur lui-même et se releva aussitôt, avant que la boue ne retombe, pour courir vers l'abri des arbres. Cassade le suivit. Il se trouvait à mi-chemin de la ligne d'arbres lorsqu'il se rendit compte que le vieil archer et le jeune soldat n'étaient plus avec lui. Peu lui importait après tout. L'adrénaline affluait et l'appel du sang l'étreignait irrésistiblement. L'homme d'armes, qui avait été désarçonné par son cheval lancé au galop et se trouvait empêtré dans une armure de 60 livres, aurait dû être pour Cassade une proie facile, mais ce fut loin d'être le cas. Le Français, ayant jeté un seul coup d'œil en arrière, le vit arriver sur lui en courant, le marteau levé, le regard meurtrier. Il courut de plus belle et atteignit le bois avec une 15 mètres d'avance sur son poursuivant. Cassade ne ralentit que lorsqu'il eut pénétré assez profondément dans la forêt. Il s'appuya alors sur le manche de son marteau et considéra la situation. Les cris, les chocs et les commotions du champ de bataille lui parvenaient assourdis par la distance et la végétation. Les arbres, presque sans feuillage, laissaient encore tomber des gouttes de pluie du dernier orage. La forêt était tapissée d'une épaisse couche de feuilles mortes et de brindilles. L'homme d'armes avait laissé une piste de branches cassées visible sur la première vingtaine de mètres, mais elle devenait de plus en plus difficile à suivre avec la multiplication des sentiers d'animaux envahis par les broussailles. Cassade progressait lentement en s'efforçant de repérer le moindre bruit autre que ceux de sa respiration haletante ou de son propre cœur près d'éclater. Il s'avisa que, tactiquement parlant, ce qu'il était en train de faire n'était peut-être pas particulièrement prudent. L'homme d'armes portait une armure complète et tenait son épée à la main quand il avait disparu dans ses bois. D'un moment à l'autre, il pouvait se ressaisir, surmonter sa panique, regretter sa conduite peu honorable pour un chevalier et se souvenir de ses années d'entraînement au combat. Cassade, lui aussi, avait reçu un entraînement spécial. Il baissa les yeux vers son gilet de cuir et sa chemise de toile. Il tenait toujours son marteau à la main et son poignard était passé à sa large ceinture. Il était entraîné à l'utilisation d'armes à haute énergie, capables de tuer dans un rayon allant de quelques mètres à des milliers de kilomètres. Il était qualifié dans le maniement des grenades au plasma, des clapes, canons à fléchettes, soniques, armes sans recul sous gravité zéro, bâtons de la mort, fusils d'assaut cinétique et autres gantelets à faisceaux. Il possédait maintenant une bonne connaissance du grand arc anglais, mais aucun de tous ces objets, pas même le grand arc, n'était à portée de sa main. « Merde !» murmura le deuxième lieutenant Cassade. L'homme d'armes sortit des buissons comme un ours lancé à la charge, les bras levés, les jambes écartées, l'épée décrivant un arc de cercle plat visant à éviscérer Cassade. L'élève officier de l'ECMO essaya de faire un bond en arrière et de lever son marteau en même temps. Mais il ne réussit tout à fait ni dans l'un ni dans l'autre. La lourde épée du Français lui arracha le marteau de la main, tandis que la pointe émoussée de la lame éraflait le cuir, la chemise et la peau. Cassade bondit de nouveau en arrière en beuglant, portant instinctivement la main au poignard de sa ceinture. Mais son talon droit s'empêtra dans les branches d'un arbre déraciné, et il tomba en jurant dans le fouillis de branchages tandis que l'homme d'armes fonçait sur lui, son épée taillant à droite et à gauche comme une machette démesurée. Cassade avait réussi à sortir son poignard au moment où le Français commençait à se frayer un chemin dans l'enchevêtrement des branches. Mais que pouvait faire une pauvre lame de 10 pouces d'acier contre une armure, à moins que le chevalier ne fût immobilisé, ce qui n'était présentement pas le cas. Cassade savait qu'il n'aurait jamais aucune chance d'introduire sa lame à l'intérieur du cercle où opérait l'épée. Son seul espoir était dans la fuite, mais le gigantesque tronc derrière lui et l'enchevêtrement devant éliminaient cette option. Il ne tenait pas à se faire transpercer en tournant le dos aux Français, ni à être embroché par en dessous en essayant de grimper. Il ne tenait à mourir d'aucune façon. Il adopta la posture défensive du lutteur au couteau, qu'il n'avait pas utilisé depuis l'époque où il se battait dans les ruelles sordides des bas-fonds de Tarsis. Il se demandait comment la simulation allait traiter sa mort. Une ombre apparut, surgit de nulle part derrière le chevalier français. Le bruit du marteau de Cassade retombant sur l'épaulière d'acier de l'armure évoqua très précisément, dans l'esprit de ce dernier, celui qu'aurait fait un marteau pilon en retombant sur le capot d'un véhicule EM. Le Français tituba, se retourna pour faire face à la nouvelle menace et reçut le second coup de marteau sur son plastron. Le sauveur de Cassade était de petite taille. L'homme d'armes ne tomba pas. Il brandissait déjà son épée au-dessus de sa tête lorsque Cassade le frappa d'un violent coup d'épaule par derrière à l'articulation de la genouillère. Les branches craquèrent tandis que le Français en armure tombait lourdement. Le petit attaquant l'enjamba aussitôt, immobilisant son épée du pied et abattant à plusieurs reprises son marteau sur le haume et son ventail. Cassade réussit enfin à s'extirper de l'enchevêtrement de branches et de jambes. Il s'assit sur les genouillères du chevalier abattu et commença méthodiquement à traverser l'armure avec son poignard aux articulations du bas-ventre, des côtés et des aisselles. Le petit combattant sauta alors à pieds joints sur le poignet du chevalier et Cassade rampa vers l'endroit où le haume s'articulait au reste de l'armure pour larder le Français de coups de poignard. Il réussit enfin à introduire la pointe de son arme dans une fente du ventail et un hurlement s'éleva tandis que le marteau retombait sur le manche du poignard, enfonçant les 10 pouces de lame dans le défaut de l'armure comme un vulgaire piquet de tente dans le sol. Le chevalier souleva du sol, dans un dernier soubresaut, les 60 livres d'acier de son armure et Cassade, puis retomba inerte. Cassade se laissa rouler sur le côté. Son sauveur tomba également près de lui. Ils étaient tous les deux couverts de transpiration et du sang du chevalier mort. Il regarda de plus près le visage de l'autre et vit qu'il s'agissait d'une femme vêtue à peu près comme lui. Puis il laissa de nouveau retomber sa tête, haletant. « Est-ce que tout va bien ?» réussit-il à dire au bout d'un moment. Il ressentait maintenant le choc de la surprise. Elle avait les cheveux bruns et courts, tout au moins selon les critères actuellement en vigueur dans le Retz, avec, de part et d'autre de la raie, une frange qui naissait à quelques centimètres du centre de son front, sur le côté gauche, pour finir juste au-dessous de son oreille droite. C'était une coiffure de garçon appartenant à quelque époque révolue, mais elle était loin de ressembler à un garçon. Cassade se disait au contraire que c'était peut-être la plus belle femme qu'il eût jamais rencontrée. La structure osseuse de son visage était parfaite. Son menton et ses pommettes n'étaient ni trop ronds ni trop pointus. Ses grands yeux brillaient de vie et d'intelligence. Ses lèvres étaient douces et tendres. Cassade se rendit compte qu'elle n'était pas si petite qu'il l'avait cru. Sans être aussi grande que lui, elle était d'une taille supérieure à la plupart des femmes du XVe siècle. Et malgré sa tunique épaisse et son pantalon bouffant, il devinait la courbe douce de ses hanches et de sa poitrine. Elle paraissait plus vieille que lui de quelques années, peut-être la trentaine. Mais c'est à peine s'il enregistra cette impression tandis qu'elle continuait de le dévisager de ses yeux enjôleurs aux profondeurs insondables. « Vous n'avez pas de mal ?» demanda-t-il de nouveau, d'une voix qui parut étrange même à ses propres oreilles. Elle ne répondit pas. Ou plutôt, sa réponse consista à faire glisser ses longs doigts le long du torse de Cassade, défaisant au passage les lanières de cuir qui fermaient le gilet grossier. Elle fit de même avec sa chemise à moitié déchirée, couverte de sang. Puis elle se serra contre lui, ses doigts et ses lèvres contre son torse nu, ses hanches déjà en mouvement. De la main droite, elle chercha les cordons qui fermaient le devant de son pantalon et les défit aussi. Cassade l'aida à retirer les vêtements qu'il avait encore sur lui, puis fit glisser ceux de la fille en 3 gestes fluides. Elle ne portait rien sous sa chemise et son pantalon de toile rude. Il passa la main entre ses cuisses par derrière, contre la rondeur de ses fesses, et glissa les doigts entre les lèvres humides de la toison rêche. Elle s'ouvrit à la caresse tandis que sa bouche happait la sienne. Malgré tous leurs mouvements quand ils s'étaient déshabillés, à aucun moment leur peau n'avait perdu le contact, et le membre dur de Cassade se frottait contre le ventre rond de la fille. Elle roula alors sur lui, ses cuisses écartées au-dessus de ses hanches, son regard toujours rivé au sien. Cassade ne s'était jamais senti aussi excité de sa vie. Il haleta lorsqu'elle passa une main derrière elle pour le saisir et le guider en elle. Lorsqu'il rouvrit les yeux, elle se balançait lentement sur lui, la tête en arrière, les paupières closes. Il fit remonter ses mains le long de ses hanches, jusqu'au galbe parfait de ses seins, dont il sentit le bout durcir contre ses paumes. Ils firent alors l'amour, passionnément. À 23 ans standard, Cassade avait été amoureux une fois et avait connu plusieurs fois les plaisirs de la chair. Il pensait tout savoir de A à Z sur la question. Il n'y avait rien dans son expérience antérieure qu'il n'eût pu décrire d'une seule phrase accompagnée d'un éclat de rire à ses camarades d'escadron dans la soute d'un transport de troupes. Avec l'assurance tranquille et cynique d'un vétéran de 23 ans, il était sûr qu'il ne connaîtrait jamais rien qui ne pût être ainsi décrit et oublié aussitôt après. Mais il s'était trompé. Jamais il ne pourrait communiquer en mots à qui que ce fût les impressions des quelques minutes qui suivirent. Jamais il ne se risquerait à essayer. Ils firent l'amour dans le cercle soudain d'un rayon de lumière de cette fin d'octobre, sur un tapis de vêtements et de feuilles mortes, leur peau luisante lubrifiée par une pellicule de sueur et de sang. Elle ne cessait de regarder Cassade de ses grands yeux verts qui s'élargirent légèrement lorsqu'il commença à accélérer le rythme et se fermèrent à la même seconde que les siens. Ils synchronisèrent alors leurs mouvements, portés par une vague soudaine de sensations aussi éternelles et inéluctables que le cours des planètes. Leur pouls s'accéléra. Leur chair suivit les tropismes de ses propres liquides dans une pâmoison finale commune où le monde extérieur était réduit à rien du tout. Puis, toujours joints par le sens du toucher, au diapason de leurs battements de cœur et de l'excitation de leur passion assouvie, ils laissèrent la conscience réintégrer lentement leur chair de nouveau dissociée, tandis que le monde se remettait à couler à travers leurs perceptions momentanément oubliées. Ils demeurèrent quelque temps étendus côte à côte. L'armure du mort était glacée au contact du bras gauche de Kassad, dont la jambe droite touchait la cuisse chaude de la fille. Les rayons du soleil étaient une bénédiction. Des couleurs cachées remontaient à la surface des choses. Kassad tourna la tête pour la regarder, tandis qu'elle appuyait la tête contre son épaule. Elle avait les joues roses, et la lumière de l'automne jouait sur les fils d'or de sa chevelure étalée sur le bras de Kassad. Elle souleva sa jambe pliée pour la poser sur la cuisse de Kassad, et celui-ci sentit renaître en lui un tourbillon d'excitation. Le soleil lui caressait le visage. Il ferma les yeux. Quand il se réveilla, elle n'était plus là. Il était certain qu'il ne s'était pas écoulé plus de quelques secondes, une minute peut-être au maximum. Pourtant, le soleil avait disparu, la forêt avait perdu ses couleurs, et une brise froide agitait les branches nues des arbres. Il remit en frissonnant ses vêtements déchirés, rigidifiés par le sang. L'homme d'armes gisait toujours à ses pieds dans l'attitude impersonnelle de la mort, comme un objet qui aurait toujours fait partie du décor. Il n'y avait pas le moindre signe d'une présence féminine. Fedman Kassad retourna en boitant vers le champ de bataille, à travers la forêt sombre et glacée. La plaine était jonchée de corps, morts et vivants. Les morts étaient entassés par paquets comme les soldats de plomb avec lesquels il jouait quand il était enfant. Les blessés rampaient, aidés par des soldats valides. Ça et là, des formes furtives se frayaient un chemin parmi les morts. Près de la ligne d'arbres opposée à celle d'où il venait, un groupe animé de héros, anglais et français, tenait un conclave ponctué d'exclamations et de gesticulations. Kassad savait qu'ils étaient en train de décider du nom de cette bataille afin d'accorder leurs archives. Il savait aussi que le nom choisi serait celui de la forteresse la plus proche, Azincourt, même si ce nom n'avait figuré jusque-là dans aucun plan de bataille ou de stratégie. Kassad commençait à croire qu'il ne faisait pas du tout partie d'une simulation, que cette journée de grisaille était la réalité et que le rêve était son existence dans le Retz, lorsque soudain, toute la scène se figea, hommes, chevaux et paysages. La forêt sombre devint transparente comme une image au loin en train de s'éteindre, et quelqu'un l'aida à sortir de sa crèche de simulation de l'école de commandement militaire d'Olympus. Les instructeurs et les autres élèves officiers discutaient et riaient, apparemment inconscients du fait que le monde avait à jamais changé. Des semaines durant, après cela, Kassad passa chacune de ses heures libres à errer le long des remparts de l'école militaire pour observer les ombres du mont Olympus, qui couvrait d'abord la forêt du plateau, puis les hautes terres, puis tout ce qui s'étendait à mi-chemin de l'horizon, puis la planète entière. Et pas une seule seconde il ne pensait à autre chose que ce qui lui était arrivé. Il ne pensait qu'à elle. Personne n'avait rien remarqué d'anormal dans la simulation. Personne d'autre que lui n'avait quitté le champ de bataille. Un instructeur lui avait même expliqué que rien ne pouvait exister au-delà du secteur limité de la simulation. Personne ne s'était aperçu de l'absence de Kassad. Tout se passait comme si la poursuite dans la forêt et la rencontre de cette femme n'avaient jamais eu lieu. Mais Kassad n'en pensait pas moins. Il suivait régulièrement ses cours d'histoire militaire et de mathématiques. Il faisait le nombre d'heures requis au polygone et à la salle de gym. Il exécutait sans rechigner les marches disciplinaires sur le terrain de la caldeira, bien qu'il fût rarement puni. D'une manière générale, le jeune Kassad devint un élève officier encore mieux noté qu'il ne l'était déjà. Mais durant tout ce temps, il n'avait qu'une seule idée en tête. Et il finit par la revoir. Cela se passa de nouveau vers la fin d'une simulation du RTH-ECMO. Entre-temps, Kassad avait appris que ces exercices étaient un peu plus que de simples sims. Le RTHECMO faisait partie de la Pangermie du RETS, le réseau en temps réel qui supervisait toute la politique hégémonienne, fournissait des informations aux dizaines de milliards de citoyens avides de données et avait fini par acquérir une forme particulière de conscience et d'autonomie. Plus de 150 infosphères planétaires mêlaient leurs ressources dans un cadre commun créé par quelques 6000 IA de classe Oméga pour permettre au RTHECMO de fonctionner. Le RTH ne simule pas à proprement parler. Lui avait expliqué l'élève officier Radinsky, le meilleur expert en la matière que Cassade eût réussi à faire parler. Il rêve d'une manière aussi conforme que possible avec la réalité historique du RETS. Et le résultat dépasse largement la somme des parties en cause. Car il introduit, à côté des faits réels, la notion d'intuition holistique, qui nous permet de faire partie intégrante du rêve. Cassade n'avait pas trop compris cette explication, mais il était prêt à y croire. Elle était revenue. Durant la première guerre entre les États-Unis et le Vietnam, ils firent l'amour dans les instants de ténèbres et de terreur qui suivirent une embuscade contre une patrouille nocturne. Cassade portait une tenue de camouflage grossière, sans sous-vêtements, à cause des risques, dans la jungle, d'attraper des champignons au scrotum. Il avait sur la tête un casque d'acier qui n'était guère plus perfectionné que ceux d'Azincourt. Elle était vêtue d'un kimono noir et de sandales, costume traditionnel des paysans du sud-est asiatique et du Viet Cong. Mais très vite, ils n'eurent plus aucun vêtement sur eux, tandis qu'ils faisaient l'amour debout dans la nuit, elle, adossée à un arbre, les jambes enserrant sa taille, et que le monde explosait un peu plus loin à la lueur verdâtre des feux périphériques, sous les détonations en série des mines antipersonnelles. Elle vint à lui au deuxième jour de la bataille de Gettysburg, puis à Borodino, où la fumée de la poudre formait des nuages qui stagnaient au-dessus des tas de cadavres, telles les vapeurs figées des âmes sur le départ. Ils firent l'amour dans la carcasse éventrée d'un véhicule blindé de transport de troupes, près du bassin de Hélas, alors que la bataille de blindés à effet de sol faisait encore rage et que la poussière rouge du simoun menaçant commençait à crépiter sur la coque en titane. « Dis-moi au moins comment tu t'appelles », avait-il murmuré en standard. Mais elle s'était contentée de secouer la tête. « Es-tu réel, en dehors de la cime ?» avait-il demandé en hippo-anglais de l'époque. Elle avait hoché affirmativement la tête tout en se penchant sur lui pour l'embrasser. Ils étaient longtemps demeurés côte à côte, dans un endroit bien abrité, au milieu des ruines de Brasilia, tandis que les rayons de mort des VEM chinois jouaient comme des projecteurs bleutés sur les murs disloqués de céramique bleue. Pendant une bataille sans nom qui faisait suite au siège d'une ville-tour oubliée des steppes russes, il la retint par le bras dans le local bombardé, où il venait de faire l'amour, pour murmurer à son oreille « Je veux rester avec toi ». Mais elle lui posa un doigt sur la bouche en secouant doucement la tête. Après l'évacuation de New Chicago, alors qu'il se reposait sur le balcon du 100e étage où Cassade s'était embusqué pour assurer une couverture défensive désespérée à l'action d'arrière-garde du dernier président des États-Unis, il avait posé la main sur la peau douce et chaude entre ses deux seins en disant « Nous ne pouvons donc pas nous retrouver en dehors de ces exercices ?» Elle lui avait simplement effleuré la joue de la paume de sa main fine en souriant. Durant sa dernière année à l'école militaire, les élèves officiers de sa promotion étant de plus en plus conviés à de vraies manœuvres sur le terrain, il ne participa qu'à 5 simulations du RTH. Sanglé dans son fauteuil de commandement tactique, il lui arriva ainsi de fermer les yeux durant l'assaut aéroporté de tout un bataillon sur Cérès et de sentir, entre les points primaires colorés de la matrice géographique corticale représentant les opérations tactiques sur le terrain, la présence de quelqu'un qui cherchait peut-être à le rejoindre. Mais ce n'était qu'une impression. Il ne devait plus la revoir avant son départ de l'école. Elle ne vint pas dans la dernière cime, celle de la grande bataille de Colsac, où la mutinerie du général Horace Glennon-Hite fut écrasée. Elle ne vint pas non plus aux fêtes et aux défilés de la promotion, ni à la revue finale, où le président de l'hégémonie les salua du haut de sa plateforme de lévitation, tout illuminée de rouge. Les jeunes officiers n'avaient plus au demeurant le temps de rêver, occupés qu'ils étaient à se distransporter sur la lune terrestre pour assister à la cérémonie du Masada, puis sur Tau Ceti Central, pour y prêter officiellement serment d'allégeance à la force. Le deuxième lieutenant Cassade, devenu le lieutenant Cassade, put alors passer 3 semaines standards de permission dans le Retz, muni d'une plaque universelle de la force qui lui permettait de se distransporter aussi loin et aussi souvent qu'il en avait envie. Après cela, on l'envoya à l'école coloniale de l'hégémonie sur l'Usus pour le préparer au service actif outre-Retz. Il était certain de ne plus jamais la revoir. Il se trompait. Fedman Cassade avait grandi dans un contexte de pauvreté et de mort précoce. Membre d'une minorité qui portait encore le nom de Palestinien, il avait vécu avec sa famille dans les taudis de Tarsis, exemple vivant du stade ultime de déchéance auquel peut arriver un être humain dépossédé de tout. Chaque Palestinien du Retz et d'ailleurs portait en lui la mémoire culturelle d'un siècle de combat couronné par 1 mois de triomphe nationaliste, juste avant que le djihad nucléaire de 2038 ne balaye tout.